Je suis Solange Siri. Je souhaite créer, par ce podcast « Maman au-delà de l'inceste », une énergie nouvelle de richesse et de résilience pour redonner espoir aux mamans qui souffrent dans leur solitude. Ne pas regarder ailleurs en se faisant croire que tout cela n'est rien et qu'on peut bien avancer en laissant cela derrière soi et en même temps toucher du doigt ou de l'oreille du cœur que y arriver et transformer, c'est possible. L'amour, la joie, la paix sont possibles pour les mamans qui ont survécu à l'inceste. Se réunir pour informer, inspirer, éveiller, se reconnaître et s'aimer. De maman au-delà de l'inceste, j'ai beaucoup de joie et de fierté de te partager cet échange très émouvant avec Sam Boy, maman survivante et autrice de bandes dessinées. Sam Boy, c'est la fondatrice du compte Instagram Sam Boy, qui est suivi par presque 45 000 followers et dans lequel elle partage sa vie pleine d'humour et d'émotion à travers ses dessins qui sont, selon moi, simples mais riches, bleus et très impactants. Depuis janvier 2022, Sam Boy est aussi la maman du roman graphique, ou bien BD, qui s'appelle « C'est mon petit doigt qui me l'a dit » aux éditions Le Duc Graphique. Et ça me semble être une œuvre majeure et essentielle pour la lutte contre ce fléau de l'inceste et sa meilleure compréhension par tous, que l'on soit victime ou non. Bien que ne connaissant pas Sam avant notre échange, j'ai eu la sensation de retrouver une amie chère à mon cœur. Je me sentais pleine de gratitude et d'admiration en écoutant Sam et en recevant la confirmation que Sam est une femme remplie de ressources extraordinaires qui lui ont permis non seulement de survivre au-delà du trauma de l'inceste et de ses conséquences, les conséquences qui ont découlé ensuite, mais en plus de transformer tout cela pour en faire un vrai cadeau pour elle-même, pour son fils, son compagnon actuel et futur mari, et pour l'humanité. Le cœur ouvert, je te souhaite une belle écoute. Bonjour Sam.
Salut, ça va ?
Ça va et toi ?
Ouais, très bien.
Je suis vraiment ravie de te retrouver ici sur le podcast Maman de au-delà de l'inceste. C'est vraiment un grand plaisir, un grand honneur pour moi de te voir aujourd'hui.
Merci, merci beaucoup de m'avoir invitée. Je suis vraiment ravie d'être avec toi aujourd'hui.
Ouais, vraiment, je suis touchée parce que tu sais, ça fait, ça fait plus d'un an maintenant que je te suis sur Instagram. Sur Instagram. D'abord avec mon premier compte qui est Solange Siri, et puis depuis que j'ai créé le compte pour le podcast, je te suis aussi depuis ce compte-là. Et j'étais tout de suite touchée par le trait de ton travail, hein, puisque tu es l'auteur d'un roman graphique, ou comment on dit, un roman graphique ou une BD ?
Les deux vont très bien.
D'accord. Donc, les deux vont très bien. Donc, d'un roman graphique qui s'appelle « C'est mon petit doigt qui me l'a dit ». Et en fait, quand je t'ai suivi il y a un an, tu n'avais pas encore sorti la BD puisqu'elle est sortie en janvier.
Tout à fait.
Ouais. Et je l'attendais avec impatience. Je suis trépignée de pouvoir la lire. Et alors, je ne sais pas ce qui s'est passé. Enfin, si, disons que les choses ont beaucoup évolué, beaucoup bougé. Et depuis décembre, j'ai l'impression de ne pas voir le temps passer. Et en fait, j'ai raté la sortie de ta BD. Et ce n'est que là, il y a une semaine ou deux, que quand je me suis dit, je vais enfin faire ma demande à Sam pour pouvoir venir sur le podcast, que je me suis dit, mais je n'ai pas encore lu la BD. C'est un truc de dingue. Donc, je l'ai lu, donc c'est assez récent. Et pour ça aussi, je voulais te remercier, parce que donc, cette BD, c'est mon petit doigt qui m'a dit, c'est un, un récit sur ton parcours, ton histoire, sur la résilience du trauma de l'inceste. Donc, tu vas nous en parler, mais ce que je souhaiterais, c'est surtout que tu nous parles de qui tu es et de ta maternité en particulier. Mais je voulais te remercier parce que c'est un livre qui est vraiment très touchant, qui m'a touchée personnellement. Je pense qu'il y a une grande partie de la communauté de Maman au-delà de l'inceste qui connaît ce livre et qui te connaît en tout cas. Et je pense que ça parle beaucoup. Et non seulement ça me parle de mon histoire et avec beaucoup de joie au-delà de tout ça justement, et avec beaucoup d'espoir. Et en plus, ça m'a ramené avec beaucoup de douceur et de tendresse à mon enfance en fait, parce qu'il y a en une capsule parfois un détail près, tu arrives à nous... En fait, je crois, si tu le sais pas, mais on a 2 ans de différence, puisque je crois que tu as 40 ans, tu vas avoir 40 ans, tu les
Tout
as
à
eu.
fait, ouais.
Moi, j'en
Je
ai
suis de les
40.
avoir.
Ben, je viens d'avoir 42 ans. Et vraiment, on est né, enfin, on a grandi dans la même époque, et ça m'a fait beaucoup de bien de revoir en fait aussi par ces détails-là, par exemple des références, certaines références en commun et tout. Et donc ça m'a vraiment, je suis passée de nombreuses émotions et toujours avec beaucoup de douceur et de bienveillance et envers la petite fille que tu décris donc toi dans ton récit et envers la petite fille qui était moi aussi. Parce que je trouvais que c'était, même si on n'a pas exactement la même histoire, c'était vraiment très, très similaire. Donc, merci beaucoup pour ça.
Ben, ça me rassure beaucoup, ça me fait très plaisir. Je suis toujours à la fois agréablement, enfin, je suis très contente que ça puisse aider des gens. Je suis toujours aussi très peinée de savoir que mon histoire, c'est aussi l'histoire de beaucoup, beaucoup de personnes, malheureusement. Et donc, à la fois, je me sens moins seule. Et les gens se sentent moins seuls aussi, et à la fois, ben, c'est toujours un peu triste, quoi.
Oui, mais c'est vrai que c'est tellement. Enfin, moi, je trouve, c'est aussi le but de ce podcast, hein, c'est de se sentir moins seul, c'est pas accessoire, c'est essentiel pour arriver à avancer.
Oui, bah c'est vraiment ce qui m'a manqué pendant vraiment super longtemps. Et bah, quand j'ai pu un peu mettre ma pierre à l'édifice, je me suis dit que ça pouvait forcément servir à des gens. À des gens, à des enfants, mais aussi voilà, à des survivants, des adultes, quoi.
Oui. Donc déjà, je vous invite, si vous ne l'avez pas encore fait, à aller vous procurer, c'est mon petit doigt qui me l'a dit, aux éditions Le Duc Graphique, donc de Sam Boy. C'est ton nom, c'est ton patrimoine, Sam Boy?
Non, c'est mon pseudo. C'est vraiment un pseudo. Donc Sam, qui est le diminutif de mon prénom.
D'accord.
Et Boy, qui est le diminutif de mon ancien nom de mariée quand j'ai créé un pseudo. Donc voilà. Et puis finalement, j'ai divorcé, mais j'ai gardé le pseudo. Voilà.
D'accord. Ok. Et donc, tu me dis, c'est Sam, on t'appelle Sam dans ton
Oui, tout le monde
quotidien.
m'appelle Sam. Tout à fait.
D'accord. Ok. Qu'est-ce que tu aurais envie de nous partager de ton histoire d'enfance?
Alors, j'étais une petite fille plus ou moins. Enfin, j'avais une vie normale, toute basique. Et mes parents ont divorcé quand j'avais 9 ans. Et ma mère s'est remise avec un homme que personnellement, j'ai jamais aimé. Donc, je ne sais pas, il y avait un truc qui ne collait pas déjà dès le départ. Et quand ma mère est tombée enceinte de lui, il a commencé à avoir des agissements très bizarres. Il venait me voir dans la douche. Enfin, il y avait plein de choses qui me mettaient, moi, très, très mal à l'aise. Et quand ma mère est partie à l'hôpital pour accoucher, voilà, il a profité de l'euphorie de la naissance pour abuser de moi et me violer. Donc, s'en est suivi bah, voilà, un parcours difficile, des moyens d'évitement le plus possible, savoir est-ce que j'allais en parler, à qui est-ce j'allais en parler, comment je pouvais faire pour... Ben, me sentir le mieux possible dans cette maison qui me semblait très hostile, quoi. Donc ça a été vraiment assez compliqué. Au bout d'un an et demi, ben, il continuait de temps en temps à venir me voir le soir, mais il n'y a pas eu de, enfin il n'y a plus de viol, donc c'était des attouchements. Et au bout d'un moment, enfin je pense que ça se voyait en fait sur moi que, bah, que je le détestais et que c'était très compliqué. Donc ma mère un jour m'a un petit peu confrontée et elle m'a dit: mais qu'est-ce qui se passe, je comprends pas, pourquoi tu le détestes autant, quoi. Et puis, elle va me poser plusieurs questions. Elle va demander si, voilà, s'il m'a frappé. Et puis, elle va finir par est-ce qu'il t'a violé? Et en fait, je vais lui répondre que non, mais un peu, mais je vais rester assez évasive. Et puis, mais en fait, elle ne va pas vraiment prendre ce que je vais dire pour argent comptant. Elle va plutôt m'expliquer que, bah, que voilà, elle vient d'accoucher, elle a un enfant en bas âge, qu'elle ne se voit pas de toute façon l'élever seule. Et que ben moi je grandis et que je vais partir un jour de la maison quoi. Donc en gros elle me demande un petit peu de ben voilà de serrer les dents et puis et à 18 ans ben moi je partirai et puis elle vivra sa vie. Donc et en parallèle elle m'envoie chez un psy. Voilà, donc c'est un petit peu sa solution. Le psy ça va s'avérer être une grosse catastrophe. Et ça s'est vraiment hyper mal passé. Il a eu une réaction. Quand j'ai pris mon courage à deux mains pour lui expliquer, ça a été vraiment horrible parce qu'en fait, il m'a demandé si inconsciemment, je n'avais pas voulu ce qui s'était passé. Donc, j'ai beau être assez jeune, j'ai à peu près voilà, 12 ans, je me rends compte que, bah, que c'est vraiment... Enfin, en fait, je vois tout de suite que ce n'est pas quelqu'un qui pourra m'aider, quoi. Donc, à partir de là, moi, j'ai plus trop confiance aux adultes en fait.
Oui.
Donc moi j'adore ma mère, je l'aime énormément. J'aime beaucoup mon petit frère du coup qui vient de naître et je me dis bon bah voilà, moi mon rôle ça va être d'éviter au maximum d'être avec mon beau-père, de rentrer dans un mécanisme de protection et de faire ce qu'elle m'a demandé de faire, puisque c'est la personne que j'aime le plus au monde, donc c'est ce que je vais faire, quoi. Je vais serrer les dents, me protéger, et à 18 ans, je partirai. Et finalement, bah, c'est ce que j'ai fait. Donc, avec des hauts et des bas, avec bah, là, des confrontations plus ou moins, et puis après, petit à petit, un détachement aussi avec ma mère, parce que c'est... Je me rends compte en grandissant que c'est compliqué ce qu'elle m'a demandé, quand même.
C'est peu dire.
Ouais. Donc après, voilà, à 18 ans, je pars et je vais avoir un petit peu une obsession, c'est d'être heureuse et de construire ma propre famille. Donc j'ai la chance, je tombe sur un garçon qui est super chouette et avec qui j'ai un vrai début de relation. C'était mon premier copain et c'est la personne avec qui je vais me marier. Et je vais me marier à voilà, 22 ans et à 23 ans, je tombe enceinte. Et du coup, j'accouche et c'est merveilleux.
Et ta grossesse, elle a été comment ?
Eh bien, j'ai eu une grossesse hyper sereine. J'avais vraiment l'impression de créer ma famille. C'était vraiment un moment hyper doux. Même si j'avais beaucoup peur d'avoir une fille. Donc, en un premier temps, depuis que j'étais toute petite, je me voyais qu'avec une fille. Je ne sais pas pourquoi, j'avais aussi un petit peu envie de recréer, quand j'étais petite, la relation que j'avais avec ma mère. Mais en fait, après ce qui s'était passé pour moi, j'avais cette idée qui est fausse, mais que c'est... C'est aussi, qui est fausse, qui n'est pas totalement fausse, mais qui peut plus facilement arriver une agression sexuelle à une fille qu'à un garçon.
Oui, c'est complètement faux. Hein.
Donc voilà, c'est pas complètement faux. Après, pour l'inceste, c'est pas totalement vrai non plus, parce qu'il y a beaucoup aussi de garçons qui en sont victimes. Mais en tout cas, dans ma tête, je préférais avoir un garçon au final, parce que j'avais beaucoup plus peur pour une fille. Ça ne veut pas dire que je n'ai pas eu peur pour mon fils. Oui. Donc moi j'ai eu mon petit garçon et c'est vrai que après quand naît un enfant naît aussi toutes les peurs qui vont avec.
Oui.
Donc j'avais peur de le laisser, j'avais peur pour lui quoi. Enfin oui. Je pense que ça c'est un petit peu récurrent, peur de reproduire les mêmes choses. Oui. Et c'est vrai que ça m'a pas vraiment quitté ça. Après, on apprend plutôt à vivre avec, en fait. On apprend à faire confiance. Mais il y a eu pas mal d'épisodes où, quand mon fils a grandi, du coup, après, j'ai divorcé. Donc ça, ça a été une étape aussi en me disant, est-ce que je pourrais... Donc j'avais très confiance en mon ex-mari. Mais c'est pareil, même si j'ai 100% confiance en quelqu'un, je ne ferme jamais la porte sur « il peut se passer un truc horrible quand même ».
Oui, et ça, au fur et à mesure des épisodes que je fais avec Maman au-delà de l'inceste, et puis mes rencontres, et moi, personnellement, je me rends compte aussi que ce que je pense de ce que tu viens de dire là, le fait qu'on n'est pas 100%, on ne ferme pas la porte, pour moi, c'est quelque chose de positif. Du moment où ça n'est plus ce que j'ai pu vivre aussi, de l'hypervigilance destructrice et toxique pour nous, comme pour l'enfant, pour la famille et tout ça. Mais je pense que c'est peut-être un des atouts que l'on a, justement. Il y en a plein d'autres. Hein. Quand on a vécu ce que l'on a vécu, c'est terrible, c'est horrible, c'est affreux ce qu'on a vécu, mais on peut le transformer, ça tu le fais très bien. Et en plus, au niveau de la maternité, je trouve que c'est un atout. Il y a d'autres mamans, je ne dis pas qu'il n'arrivera jamais rien à nos enfants, et j'espère qu'il n'arrivera jamais rien à nos enfants, mais du coup, on a cette vigilance supérieure de la connaissance de ce qu'on a vécu, en fait. Je trouve que c'est assez positif, finalement.
C'est exactement ça, et cette porte qui est juste pas fermée, je trouve qu'elle est hyper importante, et c'est aussi ce que j'explique, du coup, dans ma BD, c'est aussi le rôle de attention, ne fermez pas les portes complètement. À partir du moment où tu sais que c'est possible, que tu sais que ça n'arrive pas qu'aux autres, que c'est finalement bien plus fréquent qu'on ne le pense, que c'est la voisine, que c'est ta cousine, ta sœur, parfois ta mère, c'est des choses dont on ne parle pas, et la porte, il ne faut jamais qu'elle soit totalement fermée, parce que c'est quand elle est totalement fermée que quand ça t'arrive, en fait, ton cerveau, et c'est ce qui s'est passé, enfin c'est ce qui se passe d'ailleurs souvent pour les mamans qui apprennent ça. En fait, il y a un moment dans le cerveau n'accepte pas, c'est tellement impossible que du coup la personne ment forcément. Alors que si la porte elle est pas totalement fermée, tu sais que c'est possible, tu sais que ça arrive. Donc en fait, c'est quand même plus facile à accepter et du coup à aider les enfants quoi.
Là tu parles de l'écoute, oui, de l'aide à nos enfants qui viendraient se confier à nous.
Ouais, c'est ça. Ouais. Puis aussi, moi, je vois pour les enfants, je me rends compte que finalement, ça se voit, en fait. Ça se voit si on sait le voir, si on est à l'écoute. La façon de parler, la façon... Enfin, je sais pas, il y a un truc qui fait qu'on le sent.
Ça m'a beaucoup touchée dans ta BD, cette vignette où tu vas voir ta maman le lendemain de son accouchement avec le bébé dans les bras. Et que tu dis, désolée si je trahis les mots, mais j'ai jamais autant hurlé dans ma tête que... tu vois, j'en ai des frissons partout, parce que c'est clair que j'en ai... Je suis comme toi convaincue que ça se voit, et j'entends beaucoup de personnes qui disent que les enfants, les spécialistes comme Muriel Salmona, qui disent qu'un enfant parle toujours. Quoi qu'il en soit, il parle toujours. Et c'est vrai que si c'est pas avec des mots, il parle. Et ça, c'est important ce que tu viens de dire, c'est essentiel ce qu'il faudrait, et c'est encore une fois un des buts de tout ce que j'entreprends et ce que tu fais aussi, et beaucoup de personnes font, que tout un chacun, en fait, pas que les mamans qui ont vécu ça, pas que les papas qui ont vécu ça, mais tous les adultes devraient pouvoir être beaucoup plus alertés sur ces, au moins avoir cette connaissance quelque part dans un coin de la tête et se dire, ah tiens, il y a peut-être quelque chose, est-ce qu'il a besoin que je m'agenouille à côté de lui et qu'on en parle, quand je lui tends la main, quoi. Parce que c'est effectivement, c'est tragique ce qui se passe derrière s'il n'y a personne. Ça m'a beaucoup touchée dans ta BD, tous ces adultes qui t'ont fermé la porte, qui ne voulaient surtout pas voir, et à quel point la petite fille que tu étais, petit à petit, elle s'est résignée, quoi. À chaque instant, il n'y a personne qui peut m'aider, quoi. Il n'y a personne qui peut m'aider.
Mais c'est exactement ça. C'est que on en parle à un premier adulte qui ferme la porte, un deuxième, un troisième. J'en ai parlé aussi à des amis. Alors, c'est aussi un autre sujet, parce que les enfants parlent aussi entre eux, beaucoup. On se confie aussi beaucoup à des amis. Et ça aussi, c'est apprendre aux enfants que quand on leur confie un secret, il y a des secrets. OK, si c'est pour une surprise, que ça va être révélé bientôt, On peut garder le secret un petit peu, mais qu'un secret, ce n'est pas fait pour être gardé, surtout s'il rend triste ou si c'est compliqué, quoi. Et je me dis que ça aurait pu être différent si, si un médecin avait voilà, déclaré ce qui m'était arrivé, si une amie en avait parlé à ses parents, bah, ça aurait pu être différent aussi pour moi, quoi. Même si, encore une fois, je ne leur en veux pas. En tout cas, à mes amis, je ne leur en veux pas. Le monde médical, beaucoup plus, mais... je sais qu'à cette époque-là, moi, je leur avais fait promettre de ne pas parler et j'étais sincère quand je leur... Je voulais vraiment pas qu'elles en parlent, quoi.
C'est vrai que ça, c'est compliqué aussi parce que, effectivement, ton amie, ta copine, ta meilleure amie, par exemple, ou quelqu'un de très proche, une cousine, j'en sais rien, si tu lui dis, tu ne le dis surtout pas, et effectivement, comme tu dis, tu es très sincère, donc ça transpire, on comprend, on ressent. Donc, tu es un peu, comme on dit vulgairement, le cul entre deux chaises. Et c'est compliqué la trahison du secret. En même temps, on sait si les enfants sont informés, et c'est ce qu'il faut qu'on continue à faire, et ils savent qu'il ne faut pas le garder, ce secret. Donc c'est un peu compliqué quand même.
C'est hyper compliqué. Enfin, je sais pas ce que j'aurais fait si moi on m'avait parlé de ça, quoi. Enfin, j'ose pas imaginer dans quelle position se trouve un enfant à qui on raconte ça. Parce que forcément, derrière, il y a des conséquences qui sont énormes. C'est des enfants qui vont être placés probablement en maison d'accueil, enfin, en famille d'accueil. J'ose pas imaginer, en plus, comment... Enfin, ça doit être hyper compliqué, mais je pense qu'à un moment donné, c'est quand même la meilleure chose à faire et qu'une fois adulte, on peut dire, ben ouais, merci de m'avoir aidé, quoi.
Oui. Mais... Ce que tu me dis là, ça me... du coup, je me dis, qu'est-ce que toi, tu aurais... Comment tu aurais voulu que les choses se déroulent? Imaginons, et je sais que sur une de tes vignettes, tu en parles avec une petite fille qui est peut-être une copine à toi, je ne sais plus exactement.
Ouais.
Et si cette amie-là, elle avait fait justement... elle avait fait le choix de finalement dire ça à ses parents, comment tu imagines que ça aurait pu être dans l'idéal pour toi?
Franchement, je pense que je lui en aurais voulu à mort et je pense qu'après, j'aurais été placée en maison, voilà, en famille d'accueil.
Ouais.
Et je pense que ça aurait été aussi extrêmement compliqué parce que j'aurais dû quitter ma mère, j'aurais dû quitter mon frère. Ça aurait été... en fait, ces histoires-là, c'est de base tellement compliqué, quoi. Enfin, il n'y a pas de... La seule chose qui aurait pu m'aider, c'était ma mère. En disant je prends en compte ce que tu me dis, en quittant la personne et du coup en m'aidant psychologiquement, mais en étant présente et en ayant pris en compte ce que je lui avais dit. La meilleure solution, ça aurait été ça. Je pense que ça aurait évité des années de thérapie. Au final, je me rends compte aujourd'hui, alors le traumatisme des faits en eux-mêmes, je veux dire, c'est très difficile de s'en remettre. Mais si c'est pris tôt, si c'est cru tôt, s'il n'y a pas de remise en cause de cette parole, s'il n'y a pas d'abandon de la famille, s'il n'y a pas de rejet, on s'en remet, en fait. Alors qu'aujourd'hui, je me suis remis des faits, mais je me retrouve sans famille, je me retrouve sans ma mère, sans mon frère... et ça j'arrive pas à m'en remettre, en fait. Ça, on s'en remet pas de l'abandon de sa mère,
bien sûr.
Donc au final, c'est ça qui reste, et je me dis que, et ça, ben, ça fait partie des choses qu'il faut aussi travailler. Il y a les faits en eux-mêmes qui sont vraiment hyper graves, mais bon, il faut mettre les gens en prison, il faut éduquer, à plein de niveaux on peut aider, mais aussi en parler aux mères, et enfin, c'est pas normal qu'autant de mères ne croient pas à leurs enfants, quoi. Ça c'est insoutenable, enfin c'est incompréhensible.
Oui, je pense qu'il y a beaucoup beaucoup de facteurs à ça quand même. Et puis ça dépend des situations, mais de ce que je comprends, il y a aussi en grande partie le fait que c'est comme une, je sais pas si tu connais cette Dorothée Ducy, qui est une anthropologue, qui a écrit sur l'inceste. Elle a écrit le berceau des dominations.
Oui, c'est ça, oui.
Ouais.
C'est ça.
Et elle parle du fait que c'est donc un système, et qu'il y a en fait une grammaire du silence de l'inceste et une grammaire du déni, en gros, quoi. Que ça vient de... Parce que c'est de famille en famille, de transmission, enfin, c'est une transmission transgénérationnelle et très systémique. et que souvent, les mamans qui ne peuvent pas voir ou qui voient mais qui ne peuvent pas répondre de façon appropriée, c'est parce qu'elles ont été finalement éduquées et conditionnées de façon très inconsciente mais très puissante à ne surtout pas être performantes dans ce, donc, du coup, dans l'accompagnement de leur enfant. Donc, moi, de mon côté, même si j'ai déjà confronté ma mère sur ce sujet et qu'elle ne peut pas me dire, elle me dit constamment très très catégoriquement que non, il ne lui est jamais rien arrivé de tel, j'explique le fait que ma mère n'ait rien vu dans mon histoire par le fait que ça me rassure quelque part et ça me permet de ne pas trop lui en, enfin c'est pas que je vais pas enfin, de pas conserver de colère par rapport à ça, au fait qu'elle n'ait pas été là pour moi par rapport à cette à la protection quoi. Donc ça peut donc de ce que je comprends toi ou plutôt qu'est-ce que est-ce que c'est cette relation donc avec ta mère notamment et puis le fait de plus avoir ton frère aussi enfin une grande partie de ta famille qui reste une des conséquences les plus importantes et impactantes dans ta vie de ce que tu as vécu aujourd'hui.
Aujourd'hui oui, c'est ça qui est compliqué, je suis en train de préparer mon mariage, il y a personne de ma famille quoi.
Ouais.
Donc ça c'est un peu compliqué ouais. Et ce qui était important pour moi c'est de casser ça, c'est de casser ce cercle vicieux justement qu'on se traîne les boulets de génération en génération. À un moment donné j'avais envie de dire stop en fait, j'avais pas envie de transmettre ça à mon fils, j'avais pas envie qu'il y ait de tabou entre nous, j'avais pas envie qu'il sache pas ce qui m'est arrivé parce qu'en fait même si c'est sa grand-mère, même si... Eh ben en fait, ce n'est pas de ma faute à moi. Donc, en fait, je n'ai pas moi à avoir honte de ce qui s'est passé. Et lui, il n'a pas à se traîner ça non plus. Du coup, ben, faire passer ça avec mes dessins, c'était un moyen pour moi de me libérer de ça et quelque part de le libérer aussi, lui.
Quel âge a ton fils aujourd'hui?
17 ans.
Oui, c'est plus un bébé.
Non.
Ouais, et à quel âge tu as. Enfin, quand est-ce que tu as réussi à lui. Enfin, quand tu lui as parlé de ton histoire?
Alors, c'est très souvent une. Enfin, c'est une question qu'on me pose très souvent. Et en fait, je lui en ai parlé quand j'ai pas eu le choix. Donc, je sais pas quand est-ce que lui en aurais parlé, si jamais. Mais parce que quand j'ai porté plainte. J'avais donc 27 ans, c'était il y a 10 ans, et en fait j'étais tellement mal, moi, que j'étais obligée de lui en parler. Il voyait que ça allait pas bien, il avait 7 ans du coup, il voyait que j'étais mal en plus quand, parce que en fait quand j'ai divorcé, donc il retournait voir son papa, et son papa, lui elle l'amenait chez ma mère du coup. Donc moi, je n'ai plus de contact avec ma mère, mais mon ex-mari, du coup, a encore des contacts avec elle. Et du coup, mon fils voit sa grand-mère.
Encore aujourd'hui?
Oui.
Ouais, d'accord. Ouais.
Et quand moi, j'ai porté plainte, donc j'étais extrêmement mal. J'étais extrêmement mal quand il allait la voir. J'étais vraiment mal et j'étais obligée de lui expliquer. Donc j'étais un peu au pied du mur. Donc c'est difficile de dire aux gens quand est-ce qu'on doit en parler à nos enfants. Je pense en fait au plus tôt, quand on ne va pas bien... leur expliquer pourquoi on va pas bien, qu'est-ce qui a déclenché le fait qu'on n'aille pas bien. Donc moi, c'était un petit peu ça. Je devais lui expliquer qu'il n'était pas du tout responsable de ce qui m'arrivait, de mon mal-être. Et je lui expliquais avec des mots le plus simple possible que voilà, monsieur machin m'avait fait beaucoup de mal quand j'étais petite et que ben, là, j'étais allée voir la police et que je leur avais demandé de m'aider et que ben, c'était une période qui était très difficile pour moi. Donc au début, ça a commencé un petit peu comme ça. Et puis petit à petit, il a commencé à me poser un peu plus de questions. Parfois même à me confronter beaucoup. Parce qu'en fait, à partir du moment où toutes les choses ne sont pas très claires, les enfants sont un petit peu... Voilà, quand on se disputait ou quand je le comptais, voilà, de temps en temps, il se servait un petit peu de ça pour m'attaquer un petit peu. Et du coup, à un moment donné, je lui dis stop. En fait, je lui ai vraiment expliqué les choses. Je lui dis que c'est pas juste un petit truc qui s'était passé dans mon enfance, c'était vraiment très très grave et qu'on pouvait pas jouer avec ça. Et donc à partir de ce moment-là, il a très très bien compris. Et voilà, il est très très bienveillant avec moi, il comprend ce qui m'est arrivé. Et, ça lui a pas empêché après, ça l'a pas empêché après de me continuer à me poser des questions, et ça c'est tout à fait normal, et des choses qu'il avait pas compris ou des choses qui étaient pas claires. Et encore maintenant, on en parle encore régulièrement, quoi.
Oui, notamment que le fait que tu aies sorti cette BD, ça c'est encore un support, une occasion en tout cas de pouvoir creuser. Il l'a lu ?
Oui, il l'a lu. Il y avait des choses d'ailleurs qu'il ne savait pas forcément, parce que c'est pas évident de savoir qu'est-ce qu'on raconte, qu'est-ce qu'on ne raconte pas. Et dans la BD, moi, j'ai tout mis. Donc, oui, il l'a lu, il en parle souvent, il en parle à ses amis, il en parle. Voilà, c'est. Et je suis hyper contente que ce ne soit pas un truc dont il a honte. C'est pas. Plutôt une fierté pour lui, de ce que j'en vois, en tout cas il a l'air fier de moi, et finalement c'est mon plus beau cadeau, quoi. C'est le fait que ça lui plaise ce que je fais, et qu'il trouve ça chouette que je puisse parler, et que ça m'ait fait du bien, quoi.
Ouais, c'est magnifique, bravo à toi, franchement. Ouais.
Merci. C'était hyper difficile, parce que je pensais vraiment que c'était... Enfin, quand j'ai commencé la BD, je me dis « Ah, bon, c'est une histoire que j'ai un peu bouclée. Enfin, je peux revenir dessus, c'est chouette. » Et puis, en fait, en revenant dessus, ça a été vraiment horrible, parce que pour être au plus juste, je suis obligée de revenir sur l'émotion que j'ai vécue. Et c'était vraiment très compliqué. Mais à chaque page que je tournais, à chaque page que je finissais, j'étais quand même un peu plus légère à chaque fois. Donc, Mais c'était difficile, ouais.
Oui, parce que tu as fait un beau chemin déjà jusqu'à l'écriture, la création du livre. Et donc, tu refaisais encore, tu repassais une couche, quoi, quelque part, à chaque fois, au cours de l'écriture.
Ouais, c'est ça. C'est ça, c'était vraiment... c'était à la fois c'était une torture, et à la fois, il fallait, quoi. Mais bon, c'est comme en parler. Au début, je n'arrivais pas à en parler. Et puis, petit à petit... ça devient de plus en plus naturel d'entendre les mots, de les voir sortir de moi, et de voilà, c'est mon histoire, ça fait partie de moi, mais c'est pas non plus ce qui me définit, je suis pas que ça, quoi. Donc c'est non, mais ça fait, de toute façon, ça fait toujours du bien d'en parler, il y a jamais rien de bon qui sort du silence, ou il faut parler, quoi. Je pense que c'est primordial.
Oui, et en même temps, c'est pas facile pour tout le monde. Ça dépend où on en est.
Oui, tout à fait. Enfin, c'est pour ça que souvent, on me dit « Ah, pourquoi tu l'as fait ?» Et le premier truc, c'est que... Parce que je pouvais, en fait. Et c'est vrai que des gens viennent parfois me parler, et je lui dis « Le simple fait que tu sois vivant, fait de toi... » Et d'ailleurs, le nom de ton podcast en parle de lui-même. C'est que être vivant, quand on a vécu ça... c'est déjà un pas énorme, quoi. Je comprends pas d'ailleurs qu'il n'y ait pas plus de suicides liés à ça. Enfin, je veux dire, parce que c'est une torture de vivre après ça, quoi. Les gens ne se rendent pas compte à quel point... saluer le fait que les gens soient vivants après ça, c'est déjà énorme, quoi.
Ouais. Oui, ça m'a beaucoup touchée, ça, ce passage. Je crois que c'est à la fin, hein, où tu dis tout simplement, mais parce que je peux le faire, et que après, pour les personnes qui ne peuvent pas le faire, c'est ça aussi, moi, qui me motive depuis... Alors, ça fait un peu plus d'un an, à peu près. Oui, c'était concomitant avec la vague MeToo inceste, même si ce n'était pas prémédité pour moi, parce que je n'avais même pas entendu parler de... Enfin, je pense que dans l'inconscient, dans la vibration, j'ai dû le sentir même sans le savoir. Et je me suis lancée, j'ai fait mon coming out, comme je le dis, sur les réseaux sociaux, et j'ai parlé de mon histoire. Mais c'était pas... Je pense qu'au fond de moi, j'avais besoin d'exprimer quelque chose que je n'avais jamais su exprimer avant. Et c'est aussi, on me demande aussi pourquoi parler de ça. Mais aussi, justement, parce que moi, j'en ai la capacité. Je ne m'effondre pas quand je le fais. C'est de plus en plus facile pour moi de parler, de dire cela, de dire mon histoire, même si je ne rentre pas dans les détails, parce que je n'ai pas choisi non plus de... Justement, je cherche à montrer, comme tu le fais très bien aussi, toi, dans ton histoire, que la résilience, elle est possible, et qu'il y a de belles choses à voir au-delà de tout ça. Mais c'est vrai que parler, quand on peut le faire, c'est essentiel pour soi, et puis pour les autres qui ne peuvent pas le faire aussi. C'est vrai que cette injonction, parfois aussi à la libération de la parole, elle peut être difficile pour certaines personnes, Mais ça ouvre des portes à d'autres, ça ouvre ça, de plus en plus, à force d'entendre telle et telle personne dire son histoire, avec en plus cet espoir qui est là, ça donne beaucoup plus d'espoir aux autres de pouvoir le faire aussi à leur manière, même si c'est à deux, trois personnes, ça fait du bien, quoi.
C'est exactement ça, et c'est vrai que enfin, quand j'ai commencé à dessiner du coup mon histoire sur les réseaux sociaux, donc avant même l'idée d'une BD, c'est pareil, c'était vraiment en janvier 2021. Pareil, quand je crois que c'était la même semaine où le hashtag MeTooInceste est sorti, et pareil, c'était pas non plus voulu, donc c'est vraiment c'est rigolo quoi. Et à un moment donné, enfin, il faut que ça sorte. Et bah moi, c'est le dessin parce que voilà, j'étais dans le dessin, mais quand je vois le nombre de messages que j'ai reçus de gens qui sont venus me voir, qui sont venus me parler et qui étaient voilà, plus âgés que moi et qui me disent ben, t'es la première personne à qui j'en parle, je me dis, enfin, je me dis plein de choses, je me dis waouh, mais quel cadeau déjà, et aussi qu'est-ce que c'est. Enfin, c'est 40 ou 50 ans d'être refermé sur soi-même, c'est hyper dur. Je trouve que c'est violent et je trouve qu'on ne laisse pas non plus assez la place. Enfin, finalement, quand est-ce qu'on en parle? Enfin, de ça, on n'en parle pas en soirée, on n'en parle pas au repas, on en parle. Il n'y a pas la place de ça. Donc, l'avantage, c'est que ben, avec mes BD. Bah, en fait, voilà, je me crée une place pour en parler.
Ouais,
Et
c'est
je trouve que c'est pas mal. Et finalement, bah, je me rends compte qu'il y a des gens autour de moi qui ont vécu la même chose, ou au boulot aussi. Donc, c'est toujours un peu flippant parce que je me dis, bon, bah, qu'est-ce que les gens vont passer? Et puis finalement, mais qu'est-ce que les gens... Je m'en fous, en fait. Enfin, de toute façon, enfin, j'ai... Encore une fois, c'est pas de ma faute, donc...
Ouais.
Donc voilà.
Non, c'est sûr, mais c'est pas facile aussi d'intégrer, même si on nous le dit beaucoup. Heureusement, je pense qu'on nous le dit quand même que aux victimes, c'est pas de ta faute. Et on se le dit du coup à force, mais c'est pas si facile de l'intégrer vraiment au fond de ses tripes, parce que la culpabilité, ça c'est le poids, un des gros poids de tout ça, quoi.
C'est énorme, et c'est vrai que je dois me le répéter tout le temps, tout le temps, tout le temps. Non, mais c'est pas ma faute, parce que le premier réflexe, c'est quand même d'avoir peur, d'avoir honte et de se sentir coupable. C'est vraiment ce qui revient tout de suite, tout le temps.
D'autant que toi, dans ce que tu as vécu, l'adulte qui aurait, enfin, l'adulte compétent, c'est-à-dire le psy qui t'a reçu, il t'a fait quand même une réponse qui est abominable. C'est
Oui. Mmh.
terrible.
C'est terrible, et ça, par contre, enfin, lui, par contre, ça fait partie des personnes à qui j'en veux le plus, quoi. Enfin, mais aussi la gynéco à qui on vient dire, bon, bah voilà, je vous amène ma fille, mon conjoint l'a peut-être violée, vérifiée. Elle dit rien, quoi. Elle dit rien, elle me fait même pas un... Elle me demande même pas si ça va, quoi. Enfin,
Parce que pour toi,
c'est...
elle l'a constaté, mais elle n'a pas voulu dire, c'est ça?
En fait, c'est juste que moi, il m'avait vu. Enfin, quand je dis qu'il m'a violée, c'est qu'en fait, il m'a imposé une fellation, donc ce qui est un viol. Et
Bien
donc, il
sûr.
m'a pas pénétré ni le vagin. Voilà, il m'a pas pénétré. Donc, en fait, il y avait rien à constater. C'est-à-dire que, mais seulement moi, comme ma mère s'intéressait un peu à moi et au sujet. Donc, quand elle m'a dit, ben, on va chez gynéco, on va vérifier. Ben, moi, je me suis dit, un, déjà, elle prend soin de moi. Donc, ça, c'est cool. Deux. Eh ben, ça fera quand même un autre adulte qui potentiellement va prendre en charge aussi ça, quoi. Et en fait, il se trouve qu'on est ressorti du gynéco, ben, elle a dit, ben, alors elle n'a pas dit qu'il ne m'avait pas violée, elle a juste dit, moi je ne sais pas. Elle a dit, moi je ne me prononce pas, donc bon, c'est un peu facile, quoi. Et du coup, on est reparti comme ça, quoi. Et c'est juste incompréhensible, quoi.
Il y a encore du bon, c'était il y a du coup presque 30 ans,
Ouais,
calcul.
c'est ça, ouais.
En arrière, j'espère qu'on a fait un peu de chemin au niveau des praticiens, mais je ne suis pas convaincue que ce soit généralisé, hein. Mais
Ouais,
bon.
je pense que c'est compliqué, mais je pense qu'il y a du chemin à faire sur plein de sujets, et je suis contente qu'on en parle, je suis contente qu'il y ait des podcasts, enfin, c'est de plus en plus quand même l'information est liée, il faut que voilà, faut que les gens, faut qu'on secoue le cocotier tant qu'on peut, Faut qu'en fait, à un moment donné, ben, ces histoires qui sont tragiques, effectivement, on arrive à les transformer en quelque chose de positif et qui aide au maximum. Et ben, toi, comme moi, je pense qu'on a réussi le pari. Et au plus, voilà, au plus on y arrive, comme tu dis, ben, on peut. Donc, voilà, c'est un peu... C'est ça.
Ouais, tu parles de faire sa place, enfin, trouver, donner sa place au sujet pour qu'il soit entendu, qu'il soit reconnu, qu'on nous reconnaisse, qu'on reconnaisse les victimes qui sont actuellement encore dans cette terreur. Et ta BD, effectivement, comme tu dis, c'est une jolie place. Moi, je trouve que c'est une magnifique place. Et je trouve que c'est très efficace pour pouvoir toucher un maximum de personnes. Alors, évidemment, ce n'est pas si simple d'aller... offrir comme cadeau, par exemple, et encore que j'aimerais que ça se fasse, je pense que ça va faire partie des cadeaux que je vais vous offrir maintenant, ta BD, je vais dire, parce que je pense que c'est tellement important, donc on le disait, hein, que ce soit le sujet de l'inceste, ses conséquences, cet impact tout au long de la vie, sur toutes les sphères de la vie, qu'il soit connu de tout le monde, pas uniquement des personnes concernées directement par l'inceste, les proches, les collègues, les amis, et qu'on arrive enfin à en parler vraiment. Comme tu disais, on n'en parle pas, on n'en parle nulle part, on n'en parle pas dans les repas. Moi, j'avoue que j'essaye, mais que je suis vite rattrapée aussi par mon côté un petit peu renfermé, qui peut aussi venir de mon histoire, hein, et facilement impressionnable aussi. Du coup, bon, bah, dès que je commence à ressentir qu'il y a un ange qui passe ou que les gens regardent leurs chaussures, je ne vais pas insister. Et je pense que le support BD, avec ton trait qui est vraiment très... je ne sais pas, je pense qu'en tout cas, moi, il m'a parlé beaucoup et je pense qu'il parle énormément à, hein, beaucoup de monde. Ça peut vraiment œuvrer à ce qu'il y ait beaucoup de personnes qui s'y intéressent et qui regardent les choses différemment et qui voient que ce n'est pas juste un truc qu'il faut laisser de côté et se dire on peut avancer, parce que malheureusement, c'est ce que se disent beaucoup de personnes, que ce n'est pas bien grave. Pourtant, ça a un impact sur toute la société. Pour moi, un sujet de santé publique.
Ah oui, c'est hyper grave. Enfin, effectivement, il faut... faut au maximum pouvoir en parler quand on peut, quand on sent qu'il y a une ouverture. Mais bon, c'est hyper dur parce qu'effectivement, les gens, ça les met mal à l'aise. Et je comprends, hein, parce que c'est un sujet qui est violent. Mais en même temps, nous, on l'a bien vécu alors qu'on était enfant. Donc, il faut aussi ouvrir les yeux sur les choses qui sont violentes. Malheureusement, il faut en passer par là, quoi.
Ouais. Bah, moi, je m'interroge quand même sur ce... Quand tu dis ça se comprend, moi je le comprends aussi en me disant que c'est vrai que c'est un sujet violent, mais je réalise à quel point on ne peut pas faire des généralités non plus, mais ça marche bien, tous les films, bon, tu diras, c'est de la fiction, mais on aime tout ce qui est tragique. Bah oui, c'est peut-être parce que c'est de la fiction, donc tant que c'est loin de nous, et là on peut en parler, on peut parler de films, on peut recommander des films ou des livres ou des choses très violentes. Mais quand on veut parler de nos histoires, c'est difficile. C'est vraiment difficile de... Ouais, effectivement, qu'il y ait une écoute pour ça.
Ouais, c'est vrai. C'est hyper dur. C'est un truc qui est tellement... qui est tellement horrible, quoi. Enfin, la famille, quand même, c'est un des piliers... un des piliers dans la vie. Et quand on te coupe l'herbe sous le pied là-dessus, c'est... Enfin, c'est d'une violence inouïe, quoi. Enfin, et du coup, je suis un peu comme toi, je suis mitigée entre oui, je comprends que ce soit violent pour les gens, et en même temps, bah, ouvrez les yeux aussi, quoi. Enfin, c'est là, et en plus, enfin, les chiffres ne bougent pas, quoi. Enfin, les chiffres ne bougent pas d'année en année. On a beau MeToo inceste, on a beau sortir plein de choses, on a beau se démener, les chiffres ne bougent pas, quand même. C'est toujours un enfant sur 10, quoi. Enfin, donc c'est quand même tragique. Et puis, il n'y a pas plus de condamnations. Il n'y a pas plus... Enfin, non, ça reste quand même vraiment tabou. Donc, je ne sais pas. Après, il ne faut pas perdre espoir non plus. Hein. Il faut continuer. Je pense qu'on est sur la bonne voie, mais qu'il y a encore du travail, quoi.
Ouais. Comment tu expliques, toi, parce que t'es pas la seule, malheureusement, à qui ça arrive. Moi, j'ai pas vécu ça, heureusement, ce rejet de la famille. Enfin, en tout cas, je vois que c'est dans mon histoire, c'est pas flagrant, mais j'ai mes frères encore autour de moi. Mon père est décédé, qui était mon incesteur, un des deux. Mais toi, donc, tu me dis, et c'est bien décrit dans ton histoire, ta famille t'a tourné le dos. Comment tu expliques ça d'après, comment tu le ressens, toi? Qu'est-ce qui motive comme ça le choix de prendre parti de l'agresseur dans beaucoup d'histoires?
Moi, ce que je pense, et puis ça m'a vraiment interrogée, ça a fait partie des premières choses que j'ai cherchées sur Internet quand j'ai eu Internet, puisque je fais partie de cette génération qui n'a pas connu Internet petit, je tiens à le préciser, et où je tapais sur Internet mère qui ne reconnaît pas l'inceste, enfin, j'essayais de comprendre, et quand j'ai vu le tel fléau de ça. Et en fait, j'ai compris en écoutant un podcast l'année dernière, en écrivant ma BD, où vraiment le podcast expliquait vraiment les mécanismes du cerveau, en fait. Mais bon, c'est un peu pareil que... En fait, En gros... Les mères se sont bâties leur vie avec leurs gros piliers, et le pilier central, c'est la famille, le pilier central, c'est le conjoint, et c'est effectivement, c'est ta vie est basée là-dessus, tu formes un duo, etc., donc c'est hyper important. Et le fait que cette personne ait violé ton enfant, je pense que c'est, pour le cerveau, c'est trop difficile, c'est une information qui est trop difficile à analyser, du coup le cerveau bloque. Et derrière, la seule chose qui est possible pour le cerveau, c'est que l'enfant mente. Et du coup, c'est quand même vachement plus simple de rejeter un élément de la famille, même si ça fait mal, je pense, que de tout remettre sa vie en cause, quoi. Donc elle peut continuer à être avec son mari, avec son enfant qui lui reste, avec sa famille, avec sa mère, etc. Et moi, je suis juste le mouton noir qui a été écarté du troupeau, quoi. Alors que si jamais elle m'avait cru, elle aurait dû quitter cette personne, elle se serait retrouvée sans rien, elle aurait été montrée du doigt pour « Ah, c'est la personne qui n'a pas vu », alors qu'aujourd'hui, elle peut très bien retourner le truc contre moi, c'est moi qui mens. Donc, c'est beaucoup plus simple, en fait. Et je pense qu'à un moment donné, le cerveau préfère la facilité et... Oui. Enfin, après, ça n'excuse rien. Enfin, vraiment, de toute façon, que le cerveau il fonctionne comme ça ou pas, à un moment donné, elle m'a pas cru. Enfin, je trouve ça terrible. Donc,
ouais.
Mais bon, c'est trop systémique pour se dire que c'est simplement une personne qui est défaillante, quoi. Je pense qu'à un moment donné, effectivement, dans le cerveau, il y a un truc qui vrille, quoi.
Oui, d'où l'importance, encore une fois, de continuer à travailler, à communiquer là-dessus, pour que dans le cerveau de toutes les mamans, ce soit différent, qu'il y ait une nouvelle donne, quoi.
C'est ça. Ouais. Et qu'on se dise, mais si, en fait, c'est possible, quoi. C'est vraiment possible. T'as beau connaître ton mari sur le bout des doigts et tout machin, à un moment donné, si tu laisses cette porte qui est entre-ouverte, potentiellement, tu verras des choses, quoi.
Ouais.
Et je me rends compte que il y a forcément des choses que chez l'autre, on essaye un peu de minimiser ou quoi que ce soit. En général, c'est des choses qui sont très insignifiantes. Mais quand c'est pas insignifiant et que c'est une telle violence, ça peut avoir des conséquences qui sont énormes, quoi. Enfin, et puis, il faut pas... Moi, ma mère, elle minimisait en disant « Non, mais c'est la drogue » ou « Non, mais c'est... » Non, non, mais il n'y a rien. Enfin, faut arrêter, quoi. À un moment donné, il faut ouvrir les yeux, point, et accepter, quoi. Enfin... Mais bon, après, moi, j'ai réussi à me retrouver une famille, à me créer une famille. Donc, je m'en suis pas si mal sortie. Et quelque part, aujourd'hui, je me dis, tous ces traumas, tous ces... Voilà, tout ce chemin parcouru, aussi difficile soit-il, c'est ce chemin-là qui m'a mené jusqu'à ma vie d'aujourd'hui. Donc, quelque part, j'arrive à me dire, c'était un mal pour un bien. Et si je devais refaire tout en me disant, je suis sûre de revenir à ma vie d'aujourd'hui, peut-être que je serrais les dents pour revenir à ma vie aujourd'hui, je les changerais pour rien au monde, donc j'accepte mon passé, quoi.
Ouais. Parce que sans ton passé, tu n'aurais pas la vie présente que tu as aujourd'hui et dont tu es heureuse, c'est ça que tu dis?
Exactement, c'est ouais. Exactement ça, ouais.
C'est très touchant. Et je trouve que c'est la grande force des personnes qui, comme toi et moi, ont vécu. Après, il y a d'autres traumas, hein, mais celui-là, c'est quand même un trauma très particulier parce qu'il a vraiment des ramifications énormes, notamment pour vivre après, avoir confiance en les gens, avoir confiance en la vie. C'est pas simple de s'en remettre. Et comme tu disais, c'est pas. Là, t'es encore. J'ai ressenti ton émotion quand tu m'as parlé de ta préparation de mariage. Enfin, c'est en ce moment particulièrement. Puis tu m'as dit tu vas faire tes 40 ans. Donc, c'est quand même une étape de vie aussi, je trouve.
Oui, bah oui. Enfin, je les ai fait en janvier, mais tu as fait. Oui, on se rend compte que. Dans le cheminement, il y a plein de moments où j'aurais aimé avoir ma mère, où je vois autour de moi, quand les gens ne vont pas bien, mon conjoint, le premier, quand il ne va pas bien, il appelle sa mère. Et c'est quand même c'est censé être un cocon, c'est censé être une personne très réconfortante, présente, qui t'aime inconditionnellement, quoi. Et moi, je me rends compte qu'il y a, dans mon équation, il y avait une petite étoile qui disait oui, sauf si tu dis la vérité. Donc, en fait, c'est compliqué à gérer ça. À se dire, pourquoi toutes les mamans, elles aiment leurs enfants inconditionnellement, mais pas la mienne. Donc, on se rend compte que finalement, puis après, c'est aussi... Enfin, avoir des enfants, c'est toujours se mettre en rapport entre moi, mon rapport avec ma mère, et moi, mon rapport avec mon fils. Et... Je pense que j'ai réussi à transformer ça. Mon fils, c'est ma priorité. Ça restera toujours ma priorité, quoi qu'il arrive. Je le fais passer avant tout. Ça ne veut pas dire que voilà, si demain, il vole une voiture, je ferai en sorte... Enfin, je lui dirais, faut avouer, machin, tout ça. Enfin, ça ne veut pas dire tout lui excuser, etc. Mais ça veut dire que... même s'il va en prison, même s'il tue quelqu'un, je serai quand même présente pour lui malgré tout, quoi. Enfin, et ça, c'est difficile de ne pas l'avoir eu, mais je me rends compte à quel point c'est précieux et que ça construit une personne. Donc, j'essaie que pour mon fils d'être au maximum là, quoi.
Ouais. Tu disais à un moment donné que tu voulais avoir une fille plutôt, hein, je raccourcis du coup, mais ta préférence était au départ non. T'avais peur d'avoir une fille, même si c'est ça, hein, dis-moi si je me trompe, même si ça te faisait peur, c'est ce que tu aurais bien aimé pouvoir recréer cette fusion avec ta mère. C'est ça, du coup, je me trompe ou pas?
C'est ça, c'est-à-dire qu'au début, je me voyais que avec une fille parce que j'avais envie de recréer ça. Et puis assez rapidement, tout en étant enceinte, je me disais, finalement, un garçon, ce serait peut-être mieux. Et au final, c'est un choix sur deux. Donc, il fallait bien que je me prépare un peu aux deux. Et j'ai eu un garçon.
Ouais. Et de ce que je ressens, de ce que tu me dis dans ta relation avec ton fils, j'ai l'impression que c'est ce que tu as réussi à créer quand même. Peut-être pas la même fusion, mais un état d'harmonie, de complicité, de communication libre, de présence l'un à l'autre, de soutien avec ton fils.
Tout à fait. Et j'ai essayé de créer, et c'est la différence aussi avec ma relation avec ma mère, c'est qu'en fait, avec ma mère, elle a plutôt créé avec moi une relation de copain, de copine, en fait. On était plus des copines, voire des amies, en fait, à un moment donné, c'est plutôt le lien mère-fille qui était important. Donc ça, on l'avait aussi un petit peu, mais c'était... Donc moi, ce que j'ai essayé de créer avec mon fils, c'est une vraie relation de mère-fils, et tout en bienveillance, en écoute, en étant présent, en le laissant s'exprimer. J'espère, enfin en tout cas, c'est une merveilleuse personne. Enfin, j'en suis extrêmement fière et voilà.
Bravo.
Merci.
Mais j'imagine que ça n'a pas été facile et tu le disais, hein, y a eu des choses qui étaient compliquées, qui ont émergé au moment de sa naissance. Tu nous as dit aussi que ta grossesse était plutôt sereine, mais qu'après c'est plus après que les peurs arrivent. Quelles étaient les plus grandes peurs pour toi?
J'avais vraiment peur qu'il se fasse agresser sexuellement. Et moi, j'ai aussi eu peur de moi l'agresser. Même si, je ne sais pas si c'était un peu inconscient. Par exemple, je n'ai jamais voulu faire du cododo ou j'ai jamais... c'est notre lit, c'est le lit de moi et mon conjoint et c'est tout, quoi. Il n'y a pas de place... Donc si j'ai... Mais ça ne veut pas dire qu'on est aussi très, très proche physiquement. On se fait beaucoup de câlins, etc. Je suis une mère qui est très, très câline, mais il y a plein de choses. Je ne me montre pas nue devant lui. J'ai tout de suite toqué avant de rentrer dans sa chambre. Mmh. Il y a plein de choses comme ça où, au niveau de la nudité, au niveau de la sexualité... c'est mon conjoint qui prend un peu le relais pour lui parler de... Donc j'ai la chance aujourd'hui d'avoir un conjoint qui est très très proche de mon fils aussi et qui prend le relais sur beaucoup de choses où moi je suis un peu bloquée quand même, où j'essaye de bloquer, mais tout ce qui est sexualité, tout ce qui est... Donc y a plein de sujets où moi, c'est un peu compliqué pour moi. Donc lui prend le relais, lui en parle, etc. Donc, faut aussi se faire aider, se faire accompagner. Mmh. On n'est pas forcément seul. Mais oui, il y a toujours des peurs. Il y a toujours... je pense que tous les parents ont peur pour leurs enfants, mais quand on a ce background, c'est encore un peu plus compliqué, je pense.
Oui, puis d'autant plus que dans ton histoire, donc, quand tu t'es séparée de son papa, t'es partie loin en plus. Hein. Il y a eu beaucoup de kilomètres entre vous.
Et oui, 500...
500 kilomètres, ça. Et du coup, il y avait des longues... Quand il partait en vacances, il y avait de longues périodes où tu ne l'avais pas du tout, c'est ça ?
Oui, il partait toutes les vacances chez son père et c'était vraiment horrible pour moi. Le fait que ma famille me traite de menteuse et qu'en plus, quand on divorce, on n'est pas vraiment en très, très bon terme non plus. Donc, le fait que mon ex-conjoint se rapproche de ma famille, pour moi, c'était vraiment compliqué. J'avais vraiment peur que... un jour, mon fils me dise non, mais je veux habiter avec papa et il me croit plus du tout et me traite aussi de menteuse. C'était vraiment ma hantise, quoi. J'avais peur qu'il lui retourne le cerveau et qu'il me croit plus et qu'il parte, en fait. Donc, chose qui n'est pas arrivée, heureusement. Et aujourd'hui, il est trop grand pour que ça arrive. Mais vraiment, j'avais peur de ça. Ouais.
Oui, je comprends. Moi, je n'avais pas, en fait, saisi ça à ce point-là. Mais effectivement, ça se comprend tout à fait. Et le fait que, du coup, ta mère est en contact et même s'entende très bien avec ton ex-mari, le père de ton fils, et que, du coup, comment au niveau de ta sérénité, si je puis dire, justement, et comment arrivais-tu à rester plus ou moins sereine en sachant aussi que ton fils passait du temps donc chez ta mère et en présence de l'agresseur, celui qui t'a agressé, quoi. Ouais. Comment ça se passait pour toi ?
Eh ben, c'était hyper flippant. C'était toujours hyper flippant. Donc j'étais en hyper vigilance tout le temps, en lui posant des questions banales, mais en essayant de vérifier que tout aille bien et que tout soit OK. Mais j'étais que sur du potentiellement curatif, quoi. Alors, j'essayais de lui parler de consentement, de ce qu'on a le droit de faire, de ce qu'on n'a pas le droit de faire. Donc ça, depuis qu'il est tout petit, un médecin n'a pas le droit de toucher sans te demander, etc. Là, on va regarder ça, on va regarder ça. Donc, il était un peu averti de ça, mais bon, j'avais hyper peur. Je me dis, je vais passer à côté de quelque chose. Comment je peux savoir ? Enfin, c'était hyper compliqué, quoi. Donc, je flippais. C'était des périodes où c'était très très compliqué pour moi, ouais. Puis plus il a grandi, c'est plus déjà il parle, donc bon, ça va, et on a toujours eu une très bonne communication, donc j'étais un peu rassurée, mais c'est vrai que jusqu'à encore dernièrement c'était compliqué, quoi.
Ouais. Et puis t'as traversé tout ça et la relation est même très très bonne, donc bravo. Comment est-ce que tu expliques, comment tu as fait pour créer une si belle communication avec ton fils ?
Je ne sais pas. En lui parlant de tout, de rien. Et aussi en lui parlant beaucoup de ce que je ressens et de comment moi je vais. Et du coup, pareil, quand par exemple, bon, il y a des soirs où on est plus fatigué que d'autres, ben, les enfants, c'est pas toujours hyper facile. Et il y a des fois où je m'énervais, ben, en fait, je revenais vers lui et je lui disais, ben, je suis désolée, ce soir, je suis fatiguée. Enfin, je me suis beaucoup excusée voilà, là, je me suis énervée, j'aurais pas dû. Là, bon, ben, voilà, t'as fait ça, ben, moi, j'étais fatiguée. En fait, en lui exprimant le plus possible ce que moi je ressentais depuis qu'il est bébé, en fait, je lui parle beaucoup et je lui. Et donc, j'ai l'impression que. Enfin, une fois, donc je sais plus quel âge il avait, il n'était pas très très grand, mais en fait, il s'est énervé. Et je ne sais plus ce qu'il m'a dit. Et puis, il était vraiment énervé contre moi. Il est parti, il a claqué la porte. Bon, j'ai laissé tranquille. Et en fait, il est revenu et il m'a dit, bah, maman, je suis désolée. À l'école, c'était pas facile aujourd'hui et du coup, je suis désolée, je me suis énervée contre toi, je m'excuse. Et là, je me suis dit, ah, eh ben, c'était vraiment le mimétisme de ce qui s'était passé. Alors, ça ne veut pas dire que ça justifie pas, hein, donc on est bien conscient qu'il faut ben, le plus possible ne pas s'énerver comme ça sur l'autre gratuitement, mais au moins reconnaître, c'était déjà un début de quelque chose, quoi. Et du coup, ben, petit à petit, savoir quand on est plus fatigué que l'autre. Il y a des fois encore aujourd'hui où ben, on joue beaucoup aujourd'hui, on joue sur les mots, on est très très taquin, on se taquine beaucoup. Et il y a des fois où moi je ne suis pas réceptive à ça et je lui dis, désolée, aujourd'hui je suis pas, c'est pas le bonjour en fait. Donc voilà, ben, il me prend dans ses bras, il me fait un bisou et puis ça repart en fait. Et on n'est pas toujours hyper réceptif et je pense qu'il faut simplement le dire. Donc c'est bien, il y a des fois où lui aussi, ben, il vient de se réveiller, je lui fais une blague un peu de mauvais goût, et ben il me dit non, mais pas aujourd'hui, maman. Donc je dis bah désolée. Et puis on repart, et puis voilà.
Ça met beaucoup d'émotions tout ce que tu partages. Et puis je trouve ça vraiment, tu dis ça les choses, tu dis les choses très simplement, mais je trouve que c'est pas donné à tout le monde quand même d'avoir cette capacité de recul sur soi déjà. On est trop nombreux, je dis on, mais en fait je ne m'inclus pas dedans parce que j'ai quand même bien travaillé dessus, puis c'est aussi mon travail hein, d'accompagner les gens sur ça aussi, puisque je suis thérapeute, mais dans mon entourage, je ne veux pas incriminer qui que ce soit, mais c'est vrai que je trouve qu'on est beaucoup trop dans un système automatique où on n'a pas conscience de ce qu'on dit, ou oh mais c'est pas grave, tu sais, cette expression de oh, mais c'est rien, c'est pas grave, j'en ai encore eu l'expérience hier, voilà, et pourtant des personnes qui sont assez averties, mais. Et c'est tellement pas si, c'est pas grave, mais c'est important quand même de reconnaître. Bon, là, effectivement, déjà pour soi, comme tu dis, bah, là, je suis pas prête à recevoir ce genre de choses qu'on fait d'habitude, de petits jeux, là. Et donc, je te le dis. Donc, gentiment, je te préviens. Enfin, et du coup, on a une vie beaucoup plus cool entre nous. Et que ton fils, quand il était tout petit, ait pu, comme tu dis, faire du mimétisme, je trouve que c'est génial parce que tu as planté des petites graines qui ont pu faire des fleurs magnifiques. Et aujourd'hui, c'est un garçon, bienveillant et attentionné de l'autre. Et de lui-même aussi. Donc ça, je trouve que c'est énorme pour notre société, hein, pour il en faut beaucoup plus. Enfin, il faudrait qu'on soit tous plus conscients de nos interactions avec les autres et de ce qui se passe à l'intérieur de nous. Donc je trouve ça super, super émouvant déjà. Et c'est vraiment chouette. Donc, bravo, vraiment.
Ben, c'est voilà, j'ai trouvé des petits tips au fur et à mesure de comment faire. Enfin, voilà, être parent, je me suis rendu compte que c'était. Bah, c'était avancer et grandir ensemble. Et moi, je me sens très chanceuse d'avoir pu grandir en même temps que mon fils. Et puis, on apprend l'un de l'autre, quoi. C'est super chouette. C'est une merveilleuse aventure, quand même.
Ouais, je suis d'accord avec ça. Moi aussi, j'apprends avec mes 3 filles. Depuis que je suis maman, j'ai l'impression que j'ai grandi beaucoup.
Oui.
Ouais. Et qu'elles m'apprennent énormément, ne serait-ce que des choses toutes simples, de les voir hurler, enfin quand elles étaient plus petites, parce qu'elles sont un peu plus grandes maintenant, mais hurler de désespoir, et 2 minutes après, ou même pas, passer à un autre état, un état de joie, ça apprend le lâcher prise et à se rendre compte qu'il y a des choses qui ne sont pas forcément utiles quand nous, on rumine sans arrêt sur des trucs qui prennent la tête. Et,
Tout à fait.
bon, j'aurais certainement plein d'autres choses à te demander. Est-ce que tu as envie de partager quelque chose de plus dans cet échange?
Je pense que je pourrais continuer des heures et des heures, mais je pense qu'on a fait le tour. Enfin, pour moi, c'était vraiment un moment très, 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 très sympa. Merci de m'avoir bien mise en confiance J'ai l'impression que ça s'est bien passé en tout cas.
Oui, bah écoute, merci. Merci à toi aussi. J'ai passé un très bon moment aussi. Je voulais aussi te dire, oui, que j'ai beaucoup d'admiration. Bon, je te l'ai dit, hein, pour ce que tu fais et pour la personne que tu es, parce que et ça s'exprime beaucoup dans ton livre. Mais tu vois, c'est très drôle, mais quand c'est caricatural quelque part quand tu fais cette vignette ou avec l'équation sur je veux le bonheur. Mais ça semble très pragmatique. Mais en même temps, ce qui en dégage de ce que je reçois, c'est que c'est cette force-là, quelque part, entre autres, qui t'a permis d'avancer petit à petit et à travers toutes ces épreuves qui ont été très chaotiques et très challengeantes. Enfin, challengeantes, ce n'est pas le bon mot même, qui auraient pu être destructrices. Alors que finalement, tu avais toujours cette idée de bonheur en tête et la foi surtout que ça arriverait. Et puis je suppose que tu construis toujours, hein, j'ai compris, on est tous pareils, on a toujours des gros cailloux, voire des boulets qui traînent encore à la cheville, mais tu sembles presque naviguer avec fluidité maintenant dans tout ça, et donc je pense que ça vient de cette puissance à l'intérieur de toi depuis toute petite, cette idée que c'était possible.
Oui,
je trouve ça très beau.
Je pense que c'est vraiment ça, il y a un truc en moi. Et j'ai de la chance pour ça d'avoir cette espèce de leitmotiv qui me pousse tout le temps et qui me tire vers encore plus haut, toujours plus haut, pour avancer, toujours avancer, quoi qu'il arrive, quoi. Et je me rends compte que c'est pas forcément évident, c'est pas tout le monde qui fonctionne comme ça. Et moi, je pense vraiment que c'est ça qui m'a sauvé la vie. Et voilà, j'ai su courber le dos quand il fallait courber le dos et attendre. Et à un moment donné, ben, j'ai pu m'envoler et voilà, déployer mes ailes. Et ben, ça fait du bien. Et je pense qu'on devrait tous avoir voilà, de quoi pouvoir déployer ses ailes, prendre le temps de le faire et de le faire. Voilà. Mmh. Mais je le souhaite à tout le monde, en fait.
Mmh. Oui, c'est très, très beau. On aurait pu conclure là, mais du coup, m'est revenu quelque chose d'important que j'avais envie de te dire, de te partager aussi. Depuis que j'ai lu et que je te connais du coup un peu plus par la lecture du roman graphique, c'est, je ne sais pas ce que tu en penseras, mais il y a une réflexion que je me fais depuis près d'un an maintenant, ouais, sur mon histoire, qui est que si j'ai autant de force de résilience, malgré tout ça, c'est aussi parce que j'ai eu la chance d'être bercée dans l'amour malgré tout. Même l'amour de mon agresseur, c'est-à-dire mon père, même si c'était un très mauvais amour, c'était même criminel, j'avais vraiment la sensation d'être aimée, mais puissamment aimée. Et du coup, je crois que dans ce que tu as vécu aussi, même si ta mère, elle t'a tourné le dos, elle a su te communiquer cette force de l'amour. Et peut-être que c'est ça qui fait qu'on a autant de force de résilience. Je ne sais pas ce que tu en penses.
Alors, en tout cas, c'est sûr que ma mère m'aimait et que moi, je l'aimais en retour énormément. Et en tout cas, oui, je pense que ça a dû jouer là-dessus. Je ne sais pas s'il n'y a que ça, mais en tout cas, je pense qu'il y a quand même de ça. En tout cas, oui, malgré tout, je me sentais quand même, en tout cas, quand elle était là, protégée, je me sentais bien quand elle était là. Donc, je pense que quand on a connu ça, on sait que ça peut être possible et on sait que ça peut se... Même si c'est sous différentes conditions, j'imagine qu'on a envie de reproduire ça si on l'a connu, quoi. Alors que si on ne l'a pas connu, ça doit être vraiment très compliqué, quoi.
Oui, c'est ça. Parce qu'il y a des parcours qui sont, comme tu disais, il y a des personnes qui se suicident, il y a des choses qui sont terribles. Donc, moi, quelque part, je m'expliquais ça comme ça, plus ou moins. Mais c'est vrai, comme tu dis, il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. On a aussi des choses innées, il y a des... Je ne sais pas, il y a plein de choses, quoi.
Bah oui, c'est difficile de l'expliquer, mais bon, je pense aussi qu'il faut profiter de ça, en tout cas.
Ouais. Bah, profitons, je te souhaite aussi... donc du coup, là, on est en plein été, et, très bel été, il va être pour toi très chargé, si j'ai bien compris.
Oui, ouais, je me marie dans 3 semaines.
Waouh. Bah, écoute, félicitations déjà pour ce bel événement avec ton compagnon, avec ton fils, et puis les personnes qui sont autour de toi, qui t'entourent et qui te donnent plein d'amour. Et bientôt un nouveau roman
Oui, je suis en train de faire une nouvelle BD qui parle, j'ai eu deux traumas dans ma vie, donc Donc, le premier parle de l'inceste, et du coup, voilà. Et le deuxième parlera de la naissance de mon fils, qui a été assez chaotique, puisqu'on m'a enlevé l'utérus à la naissance, parce que j'ai fait une grosse hémorragie, donc je n'ai pas pu avoir d'autres enfants.
Ouais.
Donc, voilà, je vais parler de ce sujet qui a été très, très compliqué aussi pour moi. Donc, comment je m'en suis aussi remise, et aussi le poids de la société là-dessus, qui est un peu compliqué.
Ok. Est-ce que tu accepterais de revenir à ce moment-là pour qu'on en parle ?
Avec plaisir.
Il y en aura
avec
plein
plaisir.
De choses à se partager à ce sujet-là. J'ai hâte de la lire aussi.
Je pense aussi, oui. Avec
elle,
plaisir.
Elle est à sortir, elle va sortir dans combien de temps ?
En mai 2023.
D'accord, ok. Bon, ben alors on prendra rendez-vous à ce moment-là. Alors.
Ça marche, pas de souci.
Merci du fond du cœur, Sam.
Merci beaucoup à toi.
J'espère que l'écoute de cet épisode t'a apporté autant de belles émotions qu'à moi. Merci encore à Sam pour sa présence, sa belle humanité et sa douceur. Je me sens tellement chanceuse de pouvoir clôturer la première saison du podcast Maman au-delà de l'inceste avec une si belle personne. Je me sens aussi pleine de gratitude d'avoir pu enregistrer cette première saison. J'aurais aimé en faire encore plus. Mais ce que j'ai fait, je l'ai fait. Et je suis fière de cela. Merci aux mamans formidables et inspirantes qui ont accepté mon invitation et m'ont retrouvée pour ces enregistrements de ces très beaux podcasts. Merci à toi pour ton écoute, pour ton soutien, ta présence et ta fidélité. Merci. Je te retrouve en septembre pour la reprise et pour la deuxième saison du podcast Maman au-delà de l'inceste. En attendant, continue à écouter ce podcast, à le faire vivre et grandir en le partageant autour de toi, en likant, en notant, en mettant de bonnes étoiles. Merci, c'est essentiel. Il faut pouvoir parler encore et encore de ce sujet qui dérange pour faire en sorte que les choses changent, pour faire en sorte de réduire cette ignorance et ce déni qui non seulement détruit les victimes, mais en plus contribue et participe à la perpétration de ce crime infâme. Merci. Prends soin de toi. Je te souhaite un bel été.